Et on est de retour à l'antenne et on va continuer cette émission avec un petit montage en fait avec la voix de Jean Genet qui est un écrivain qui a passé beaucoup de temps en prison. Je monte les micros au cas où. Et du coup ouais, c'est quelqu'un qui a très vite été en prison, assez vite en fait, il a été accusé de vagabondage en fait à l'âge de 15 ans. Et à l'époque, ça s'appelait les colonies pénitentiaires, en fait, les établissements aujourd'hui pour mineurs. Et assez vite, il se met à écrire, en fait, et à faire des allers-retours entre la prison et le dehors. Il est incarcéré entre Fresnes et La Santé entre 1937 et 44, et c'est là qu'il écrit, en fait, Le condamné à mort. C'est l'histoire d'un ami à lui qui c'est le dernier condamné à mort en France, en fait. Et Genet écrit sur lui parce que ce mec-là qui a fait des braquages et qui a tué son amant, en fait, d'une certaine manière, c'est pas qu'il accepte la peine de mort, mais qu'en tout cas, c'est qu'il se plie jamais devant l'autorité, devant les matons, et il y va la tête haute. Genet écrit là-dessus. Du coup, le montage qu'on va vous envoyer, c'est une compilation entre du coup des textes, enfin ce texte-là qui est repris par les Chevals Hongrois, qui est un groupe de rap qui sont pas mal souvent à Marseille en fait. Vous pouvez trouver plein de choses d'eux sur Internet. Et ensuite, c'est Genet lui-même qui parle en fait. Dans les années 70, en fait, Genet, il a rejoint les Black Panthers, en fait, plus tard, et il a beaucoup écrit sur les massacres de Sabra et Shatila, c'est des gros massacres qui ont lieu en Palestine dans les années 80, et du coup, il a pris parti à ce moment-là. Donc voilà, c'est un personnage un peu complexe, mais voilà, on garde des trucs de lui, et voilà, c'est hyper... hyper actuel, ce qu'il dit, même en 70. Ça dure à peu près 20 minutes. C'est parti.
Enfant d'honneur si beau, couronné de lilas, penche-toi sur mon lit, laisse ma queue qui monte. Frapper ta joue dorée, écoute, il te raconte. Ton amant, l'assassin, sa geste en mille éclats. Il chante qu'il avait ton corps et ton visage. Ton cœur que n'ouvriront jamais les éperons d'un cavalier massif, avoir tes genoux ronds. Ton cou frais, ta main douce, homo, avoir ton âge. Voler ton ciel, éclabousser le sang, et faire un seul chef-d'œuvre avec les morts cueillis, ça et là dans les prés, les haies, morts éblouis, de préparer sa mort, son ciel adolescent, les matins solennels, le rhum, la cigarette, les ondes du tabac, du bagne et des marins. Visite ma cellule où me roulent mes trains, le spectre d'un tueur à la lourde braguette.
La chanson qui traverse un monde ténébreux,
c'est le cri d'un marlou porté par ta musique.
C'est le chant d'un pendu rétit comme une trique.
C'est l'appel enchanté d'un voleur amoureux,
un dormeur de 16 ans, appel déboué que nul marin ne lance au dormeur affolé.
Un enfant reste droit contre le mur collé, un autre dort bouclé dans ses jambes nouées.
J'ai tué pour les yeux bleus d'un bel indifférent qui jamais ne comprit mon amour contenu dans sa gondole noire. Une amante inconnue, belle comme un navire, est morte en m'adorant. Toi quand tu seras prêt, en armes pour le crime masqué, de cruauté casqué, de cheveux blonds sur la cadence folle, les brèves des violons égorgent une rentière. En amour pour ta frime, apparaîtra sur terre un chevalier de fer, impassible et cruel, visible malgré l'heure, dans le geste imprécis d'une vieille qui pleure. Ne tremble pas surtout devant son regard clair, cette apparition vient du ciel redoutable, des crimes de l'amour, enfant des profondeurs. Il naîtra de son corps d'étonnante splendeur, du foutre parfumé de sa queue adorable. Du foutre parfumé de sa queue adorable.
Rocher de granit noir sur le tapis de laine, une main sur sa hanche, écoute le marché, marche vers le soleil de son corps sans péché, et t'allonge tranquille au bord de sa fontaine.
Chaque fête du sang délègue un beau garçon pour soutenir l'enfant dans sa première épreuve. Apaise ta frayeur et ton angoisse neuve, suce mon membre dur comme on suce un glaçon.
Mordis tendrement le paf qui bat ta joue, pèse ma queue enflée, enfonce dans ton cou le paquet de ma bite avalé d'un seul coup. Étrangle-toi d'amour, dégorge et fais ta moue.
Adore à deux genoux comme un poteau sacré, mon torse tatoué à adore jusqu'aux larmes. Mon sexe tisseron te frappe mieux qu'une arme. Adore mon bâton qui va te pénétrer.
Il bondit sur tes yeux, il enfile ton âme. Penche un peu la tête et le vois se dresser. L'apercevant si noble et si propre au baiser. Tu t'inclines très bas en lui disant madame.
Madame, écoutez-moi.
Madame, on meurt ici.
Le manoir est hanté.
La prison vole et tremble.
Au secours,
nous bougeons.
Emportez-nous ensemble dans votre chambre au ciel.
Dame de la merci,
appelez le soleil, qu'il vienne et me console.
Étranglez tous les coqs, endormez le bourreau.
Le jour sourit mauvais, derrière mon carreau.
La prison pour mourir
est une fade d'école.
Est une fade d'école.
Ce poème à la mémoire de mon ami Maurice Pilorge, dont le corps et le visage radieux hantent mes nuits sans sommeil. En esprit, je revis avec lui les 40 derniers jours qu'il passa, les chaînes aux pieds et parfois aux poignets, dans la cellule des condamnés à mort de la prison de Saint-Brieuc. Les journaux manquent d'à propos. Ils commirent d'imbéciles articles pour illustrer sa mort qui coïncidait avec l'entrée en fonction du bourreau nommé Desfourneaux. Commentant l'attitude de Maurice devant la mort, le journal L'Œuvre dit que cet enfant était libre d'un autre destin. Bref, on le ravala. Pour moi qui l'ai connu et qui l'ai aimé, je veux ici, le plus doucement possible, tendrement, affirmer qu'il fut digne, par la double et unique splendeur de son âme et de son corps, d'avoir le bénéfice d'une telle mort. Chaque matin, quand j'allais grâce à la complicité d'un gardien ensorcelé, par sa beauté, sa jeunesse et son agonie d'Apollon, de ma cellule à la mienne pour lui porter quelques cigarettes. Le veto, il fredonnait et me saluait ainsi en souriant. Salut Jeannot du matin.
Originaire du Puy-de-Dôme, il avait un peu l'accent d'Auvergne. Les jurés offensés par tant de grâce, stupides mais pourtant prestigieux dans leur rôle de parc, le condamnèrent à 20 ans de travaux forcés pour combler l'âge de villa sur la côte. Et le lendemain, parce qu'il avait tué son amant Escudero pour lui voler moins de 1000 francs, cette même cour d'assises condamnait mon ami Maurice Pilorge à avoir la tête tranchée. Il fut exécuté le 17 mars 1939 à Saint-Brieuc.
Si chaque pays suscite ou laisse se développer sa propre police. Avec quelques particularismes régionaux, on s'aperçoit pourtant qu'une police uniforme couvre la terre, et il n'est peut-être pas exagéré de parler d'une internationale policière. L'Ekidotai au Japon, l'escadron de la mort au Brésil, les CRS en France, le FBI et les différentes polices d'État en Amérique, les tueurs d'Hassan II au Maroc, les Granaderos et Los Halcones au Mexique, l'Espagne et Los Grises, les tontons Macoutes. La liste ne sera jamais close. Si je peux parler librement à ce micro de l'assassinat de George Jackson, ce sera, mis à part l'humanité qui, le premier jour, a trouvé le ton juste, une des rares fois où l'on met en doute les déclarations du directeur de la prison de San Francisco. Tout se passe comme si la plus grande partie des journalistes acceptait d'emblée la version policière. Un révolutionnaire noir en Amérique a été assassiné, donc la version de la police, qui en donnera jusqu'à 8, est seule exacte. Hier, c'est-à-dire quand la vie de Jackson paraissait encore possible, j'ai parlé de son livre comme meurtre et je ne me doutais pas que le meurtrier serait descendu par la police américaine. Cet assassinat de Jackson par la police américaine, quel que soit le niveau d'autorité qu'il a décidé, c'est un coup monté. Il a pu partir des salons de Reagan ou d'un bureau de simple gardien. La cible reste la même. Un nègre qui pense, qui écrit ce qu'il pense, dont le livre est l'annonce et la préparation d'une révolution noire. Il est faux, comme on l'a fait pour lui, pour Angela, pour David Hilliard, de parler de complot. Ce n'était pas un complot, mais pour Jackson, la préparation des consciences noires et blanches et d'un début de mise au point, le premier, d'une insurrection populaire. Les Blancs peuvent rire de la naïveté de Jackson. Il était en effet naïf, c'est-à-dire nouveau, c'est-à-dire dangereux. Maladroit, les Blancs l'ont tué. Ils ne l'ont pas grandi. Par sa mort, ils lui ont enfin donné ses proportions exactes, pourtant incalculables, trop vastes. Il n'y a jamais eu, il n'y a pas, il n'y aura jamais de victime. Si Jackson est responsable de sa démarche révolutionnaire, de son livre et de sa mort, les policiers américains sont responsables de la même façon de l'assassinat de Jackson. Les Noirs américains sont responsables et non victimes quand ils acceptent de faire la guerre au Vietnam, à Saint-Domingue, en Bolivie, pour ce que les Américains blancs appellent la grandeur de l'Amérique. Ils sont responsables quand ils acceptent même la plus petite parcelle des bénéfices de l'impérialisme qui s'enrichit des dépouilles des peuples dévastés. L'Europe fait partie aussi de ce vampirisme. Il n'y a qu'un moyen de prouver sa liberté pour une liberté toujours plus grande, c'est d'entrer dans la révolution comme les deux frères Jackson, comme les frères de Soledad, les Panthères Noires, Angela Davis, tous les peuples opprimés, comme tout homme et toute femme qui refuse d'asservir et d'être asservi. Pour en revenir à l'assassinat de Jackson, de la fable imbécile et transparente du directeur de la prison de Saint-Quentin, je dirais que les seuls moyens de refuser les buts de l'administration blanche, c'est de la combattre de front ou de la trahir. Jonathan et George Jackson, Angela Davis, les Panthères Noires, les mouvements révolutionnaires noirs ou blancs ont porté au plus haut degré ou la trahison ou le combat démasqué, donc la conscience d'être responsable. Le mot « combat » rassure. Celui de trahison fait reculer l'esprit. C'est que la morale féodale l'a condamné. Et cette condamnation pèse encore sur nous, puisque nous ne sommes pas des faits de cette mentalité. Afin d'être chevaleresque, mot encore prestigieux, il nous arrive de rester fidèles à des personnes ou à des institutions qui exigent de nous les pires abjections. Tout noir qui entre dans une administration blanche, police, armée, n'importe quel moyen de répression, non pour la trahir, mais pour servir, ce noir n'a rien compris à l'enseignement de Jackson. Il est ou il veut être américain avant tout. En restant noir, puisque sa couleur est indélébile, il veut être blanc, prétendument supérieur au nom blanc. Il ne réussit qu'à être un zombie, car actuellement pour un blanc, le noir n'est pas un homme, ou pas tout à fait. Que les Rosenberg aient trahi ou non, s'ils l'ont fait, leur trahison fut noble et même au sens médiéval du mot. Il est bien évident que je n'écrirais pas cela si la révolution planétaire avait eu lieu. Certains mots, maintenant, doivent être repris, d'autres supprimés, plus tard, obligeant à un langage nouveau. On ne peut qu'être d'accord, applaudir même, quand des hommes ou des femmes refusent de servir d'une façon ou d'une autre les bénéfices, démesurés ou moindres, des organisations capitalistes. C'est une fête funèbre quand un révolutionnaire est tué. C'est une fête joyeuse quand un révolutionnaire a nargué le pouvoir de l'argent, de la domination, du nom trop souvent répété et, depuis quelques années, du portrait multiplié. Qu'est-ce que c'est que la prison ? C'est l'immobilité. Homme libre toujours, tu chériras la mer, écrit Baudelaire. Il devient de plus en plus évident que la mobilité est un des signes de nos jours. Contraindre un homme pendant 11 ans à l'arpentage de 4 ou 5 mètres carrés qui fait, en fin de compte, plusieurs milliers de kilomètres au-dedans des mêmes murs et en pleine imagination, justifierait un homme jeune s'il voulait aller ou par exemple, en Chine peut-être, et peut-être à pied. Jackson, c'était cet homme-là. Et cette imagination et l'espace parcouru étaient très réels, d'où il a rapporté des observations, des conclusions qui font la peau à l'Amérique blanche. Par Amérique, entendons encore l'Europe et le monde qui dépouille le reste, le réduit à être la main-d'œuvre infamante, colonie d'hier, néocolonie d'aujourd'hui. Jackson l'a dit. Il l'a dit plusieurs milliers de fois dans le monde entier. Il lui restait à dire encore des vérités insoutenables pour nos consciences. Pour mieux le faire entendre, la police californienne, je déconne. Le livre de Jackson dépasse de loin cette police, puisqu'il est lu, exalté, commenté, continué par des Noirs de 9 ans. À la société blanche établie sur le dollar et le travail infernal des sous-développés nécessaires à cette assise, il est possible qu'en succède une autre, calquée sur la précédente, et qui ferait du travail contraignant la seule vertu. Nous en attendons une autre encore, qui fera du travail libre, presque ludique, la seule réalité acceptable. Même s'il m'est difficile, ici, de dire comment le monde sera changé, croyez bien qu'on y travaille. Nous ne négligerons rien. Cela nous gêne peut-être de dominer de moins en moins les Noirs, mais c'est qu'ils ne l'acceptent plus. Ils comptent sur leur propre force, non pour nous dominer, mais pour nous regarder dans les yeux. Ils changent aussi le langage, qui n'obéira plus à la définition des maîtres. Nous parlons déjà pour ne rien dire. La seule question que puissent se poser deux hommes qui se rencontrent, c'est celle-ci. Que savez-vous de nouveau, de précis, sur Dieu ? Et faites une démonstration. Elle est impossible. Dieu n'existant pas. Et nous avons une phrase, quand on est vrai, une phrase égale, une base égale. Personne n'en sait plus que l'autre. Jackson, avec peu de place, nous a enseigné que tout savoir anecdotique se réduit à cette seule phrase étale, vaine, importante cependant, et qui marque notre arrêt commun. Personne ne surpasse l'autre, ni ne le peut. Qu'était le corps de Jackson dans cette cellule ? Ni plus ni moins qu'un autre dans cet espace. Pourtant, ailleurs, deux êtres ont les besoins et les possibilités de s'accoupler. Il connaissait Festin d'Air, son avocate, mais enchaîné. Il connaissait Huey Newton par des messages écrits ou notés par des avocats ou d'autres détenus. Il a connu Angela de loin, de plus en plus loin. Jour et nuit, en pleine lumière, épié par un gardien blanc, il ne connaissait que son corps. C'est peut-être de cette abstinence de 10 ans qu'il a arraché son livre. Ici encore, il faudrait une étude serrée. Mais est-il vrai qu'afin d'être mieux châtié, un homme doit être châtré ? La punition n'est donc plus la seule absence de liberté. Quelques heures après la mort de Jackson, j'ai fait ce rêve demi-éveillé. À 10 mois ou un peu plus de distance, Jonathan et George sont sortis violemment de la prison, ventre de pierre, dans des flots de sang. Cette expulsion ressemblait à l'accouchement de jumeaux confondus dans un même âge. Ce n'était pas leur mère qui avait accouché d'eux cette nuit-là, car elle était là, droite, impassible mais présente. Elle regardait. S'il s'agissait d'une nouvelle naissance, à la fois dans la vie et dans la mort, qui accouchait sinon l'histoire de deux hommes noirs couverts de sang, comme dans tous les accouchements ? Pourquoi le nom et l'image de Mao Tse-Tung m'apparaissent-ils brusquement ? Ce nom et cette image sont peut-être la mise en collectivité de tous les noms, de toutes les pensées, de toutes les images qui se fondent ou se résorbent dans un seul nom, dans une seule image. Rechercher l'anonymat, même pour l'homme qui porte le nom de Mao. George et Jonathan, gémeaux noirs, ne sont pas la version moderne de la mythologie issue de l'abîme ou venue du ciel. Ils nous rappellent seulement que nous devons faire un travail d'homme contre la mythologie scintillante et nombreuse du monde blanc. L'ambassade des États-Unis distribue cette lettre d'une certaine May Sherwood, attachée au département d'État de Washington. J'en cite la fin. En vérité, on s'aperçoit aujourd'hui que le droit constitutionnel américain a un jugement rapide à force d'être complété au cours des années par d'innombrables procédures destinées à protéger les autres droits des accusés, tant à aboutir à un tel imbroglio que les délais s'en suivant en entravent l'exercice et font obstacle aux fins mêmes de la justice. Si l'on comprend bien cette lettre, écrite à propos d'Angela Davis, les accusés ont tort d'utiliser toutes les lois qui peuvent les protéger. Quand la police américaine qui assassina Jackson nous propose une farce rocambolesque mais sinistre, elle nous indique avec sûreté que l'Amérique a peur des Noirs. Elle en a peur non parce qu'ils sont des brutes, mais parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont déjoué les jeux des différentes administrations blanches. Elle en a peur enfin parce qu'ils sont doux et inexorables. Sachant cela, la police américaine assassine Aimant. Mais que sont donc devenus les corps des gardiens de prison que le directeur de Saint-Quentin nous dit égorgés ? Comment furent-ils enterrés ? Sans funérailles, sans cérémonie, sans veuve décorée, enterrés à la sauvette quand Jackson l'était, sous un grand soleil ? Illustre est celui qui répand un grand éclat. Jackson est illustre aussi s'il illumine les noirs emprisonnés dont on ne parle déjà plus.
C'est parti, on est de retour à l'antenne.
Voilà, après ce texte de Jean Genet, on va rappeler les dates déjà du festival de l'Infotour. L'Infotour, c'est...
L'Infotour, ça commence donc mercredi, c'est à 19h à Darlamifa, en haut de la rue d'Aubagne. Je n'ai plus l'adresse, mais tout en haut.
Et ensuite, sur la répression en Pologne.
Oui, voilà, sur le mouvement... la répression et comment le mouvement anarchiste polonais s'organise là depuis 2 ans face à ça. Donc avec trois personnes qui viennent de Pologne, là, qu'on montait un infotour européen pour expliquer l'histoire, les différentes histoires qu'il y a eu, parce qu'il y en a plusieurs, et ensuite un peu comment eux ils sont organisés, comment ils ont essayé de monter des collectifs pour aider les gens en prison, et aussi beaucoup sur comment empêcher la répression en fait, à D'accord. l'avance.
Ça, du coup, à Darlamifa, mercredi ?
Ouais, mercredi, 19h. Après, il y a une bouffe. Et donc ensuite, ce week-end, samedi, donc à 14h à Manifesten, rue Thiers, il y a donc des personnes d'Antiphénix, donc qui est un collectif anti-répression en République tchèque, qui viennent parler, de comment eux, ils luttent dans leur pays. Ensuite, le soir, à la Sale Gueule, donc rue d'Italie, il y a donc trois groupes... en prix libre, donc du coup pour essayer de faire du soutien pour justement pour ce collectif et pour le journal El Canero, qui est un journal écrit par les prisonniers au Mexique, qui eux seront là le lendemain à 14h à la Sale Gueule pour présenter. Et ensuite il y a une présentation sur les maxi prisons par un collectif anglais à 17h à la Sale Gueule, et ça enchaîne sur une bouffe vegan prix libre le soir à la Sale Gueule aussi.
Ok, voilà, donc un week-end bien plein. On avait juste un dernier petit truc aussi, une dernière petite brève sur une solidarité contre les prisons, en fait, que ça peut être à l'intérieur, mais ça peut être à l'extérieur aussi, quoi. Et notamment Vinci, qui est un gros constructeur de prisons, qui a plus de vitrines, qui a eu plus de vitrines pendant quelques jours au début du mois de novembre à Marseille.
Voilà. Tu veux pas donner des détails un peu parce que... Non, enfin, je veux dire.
Ouais, voilà, c'est une agence immobilière de Vinci qui est boulevard de la Corderie, quoi, qui avait plus de vitrines au petit matin, quoi. Apparemment, ils ont éclaté. Et moi j'ai l'impression que ça ressemble à un geste de solidarité aussi. Et puis un peu pour.
Et un cabinet d'architectes aussi, c'est ça.
Et alors, du coup, ça, c'est un autre truc. Un cabinet d'architectes rue Virgile Marron. C'est de Tangram s'appelle, quoi. C'est les gens qui s'occupent notamment du gros hôtel de luxe, en fait, de ce projet de gros hôtel de luxe sur la Canebière. Et eux aussi, en fait, qui ont eu leur vitrine un peu revisitée.
C'est les deux qui sont communiqués comme ça, voilà.
Voilà, ouais, c'est juste. Non, c'est donné comme ça. Ben, en fait, c'est.
Tu veux dire que le centre-ville de Marseille ressemble de plus en plus à une prison
ou... Non, justement, quoi, qu'on est en train de péter les murs de partout, quoi. Ouais. Et que. Ben voilà, ça sert à emmerder Vinci, à emmerder Tangram, mais ça sert aussi à visibiliser un peu le truc, quoi, parce que même s'il n'y a pas vraiment de revendication. Les gens, enfin tu vois, ça pose des questions aussi.
C'est un peu une revendication en soi, de toute façon.
Voilà, ouais, c'est ça.
D'emmerder Vinci, constructeur de prison, entre autres, et Tangram, du coup, cet hôtel de luxe qui est quand même un peu l'endroit où il y a le marché. Il y a le marché.
Des Capucins à Noailles.
Des Capucins à Noailles qui va sans doute être aseptisé par la même occasion. Ouais,
c'est Charlie Pizza, ouais.
C'est toujours bon, de rappeler que y a des gens qui s'opposent un peu à cette bétonisation de nos vies d'une manière ou d'une autre. On finit avec non, on n'a pas le temps, si.
Oui. Ouais, si, bon,
désolé aux copains de l'émission d'après. Alors, on va finir sur un petit montage qui est une lecture d'un extrait du livre de Elhadj Omar Top qui s'appelle Condamné à vivre. Voilà, parce qu'il faut savoir que Eladj, c'est quelqu'un qui, en plus d'avoir participé à l'évasion de la centrale de Moulins avec Kider, a aussi demandé à être euthanasié parce que voilà, il supporte pas les longues années de prison qu'on lui promet. Et du coup, qui a écrit ce bouquin qui s'appelle Condamné à vivre. Et voilà, et qui décrit la prison pour finir cette émission.
Derrière les barreaux, la vie, c'est l'enfer. Je voudrais juste un peu de silence pour reprendre mes esprits, le temps d'une bouffée de cigarette. En prison, le quotidien des heures est rythmé par les cris, les bruits en tout genre, la musique à fond dans les cellules. Du rap, du rail et du hip-hop, le plus souvent. Le bruit des clés ou les clics d'ouverture électronique des portes grillagées, le roulement assourdissant des chariots chargés de nourriture, tiennent lieu de référence sociale, de juge de paix. Prendre du repos y est impossible. Espérer s'y ménager quelques moments de tranquillité, comme l'apnéiste aspire à respirer de nouveau à l'air libre, illusoire. Il ne vous y reste que votre peau en guise d'intimité. Et encore, généralement, pas longtemps. Tout le monde, personnel pénitentiaire et codétenu, te fait vite comprendre que tu ne t'appartiens plus. Je voudrais juste un peu de temps pour reprendre mon souffle, même celui d'une fracture du myocarde ou de l'astragale. Je ne supporte plus les aboiements des surveillants. « Va là ! Couche-toi ! Écarte les jambes ! Baisse-toi et tousse ! Ouvre la bouche ! Secoue tes cheveux ! Soulève tes couilles ! Silence ! En rang ! Rase les murs ! Va à la douche ! Bouge ! Habille-toi ! Déshabille-toi ! Lève-toi ! Tais-toi ! » Je refuse. On saura me forcer. Par la violence au besoin. Coup de matraque. Taser. Jusqu'à ce que je sois d'accord. Ici, je ne suis rien. Je n'existe pas. J'appartiens à l'administration pénitentiaire. Je ne suis pas content. Je serai maté. Je ne suis pas le premier. Je ne serai pas le dernier. Ici, je suis devenu une bête sauvage. Ils seront mes dompteurs. Lorsqu'ils débarquent à 20 dans ma cellule, cagoulés et gantés, anonymes, mais auréolés et animés d'une légitimité aveugle, certains intouchables pénitentiaires usent de toute leur force. Et, quand ils sont trop fatigués pour continuer, ils me jettent au cachot, comme un vieux paquet de linge sale, ensanglanté. Là, perclus de douleur et inconscient, je ne touche bientôt plus terre, chaque fois flottant dans des limbes, d'où il m'est de plus en plus difficile de revenir seul. Je me réveille alors tout nu, suffoquant, bombardé à la lance d'incendie, dessapé du sang qui me vait, histoire de me finir aussi, va savoir. Facile, cela arrivera. Un jour, je ne me réveillerai pas, nu, accru, sur le béton froid, après la douche mortifère. Les lendemains, après avoir procédé à l'état des lieux de mes blessures, la tête en vrac, la mâchoire fracassée, le dos brisé, je peux toujours tenter de crier du fond de mon trou. Personne ne m'entend, personne ne me répond, parce que je suis déjà mort. Moi, le seul à refuser de le savoir. Tout est organisé pour cela, ici. Je sors à peine de la dernière corrida. Je resterai 45 jours au mitard. Mais cela m'est arrivé si souvent. D'un cachot, l'autre. Je remets le couvert, encore et encore. Pourtant, je crève de faim après chaque cruelle feria. Je perds 10 kilos et puis je recommence les conneries car c'est le seul combat qu'il me soit laissé loisir de mener. La seule façon pour moi de résister jusqu'à la mort. Oui, je le sais, je vais redescendre dans l'arène.